Puisse votre foi inspirer vos engagements au service du bien commun et vous inciter à promouvoir les valeurs évangéliques dans la société.
Le bien commun est une notion sur laquelle vraiment l'Église insiste fortement pour appeler la société à s'organiser, pour permettre à chaque homme de se donner, de livrer son potentiel, de se réaliser au mieux de sa personne. Alors la notion de bien commun est donc véritablement fondatrice d'énormes conséquences sociales. Dans l'idée de bien commun, on entend toutes les conditions qui doivent permettre au groupe et à chaque personne d'atteindre vraiment leur perfection, d'une façon qui sera une perfection croissante. Et dans le bien commun, il y a trois notions importantes. Il y a la notion du respect de la personne en tant que telle. Il y a toujours, deuxièmement, le bien-être social du groupe, le développement du groupe lui-même. Troisième aspect, le bien commun implique toujours la paix. Et cette notion de bien commun est véritablement fondatrice de toute une réflexion qui a des conséquences vraiment concrètes, la recherche du bonheur de chacun.
Parler de bien commun, c'est donc parler en premier lieu de la personne humaine.
Le respect des droits inaliénables de la personne humaine est à la base de tout. Toute menace contre les droits de l'homme, que ce soit dans le cadre de ses biens spirituels ou dans celui de ses biens matériels, fait violence à cette dimension fondamentale.
La centralité de la personne humaine, ce primat de la personne humaine est déjà présent dès l'encyclique Rerum Novarum en 1891. C'est donc dire que la centralité de la personne humaine fonde toute la doctrine sociale. C'est l'homme, l'homme tel que l'Église l'envisage dans sa vocation, l'homme en tant qu'image du Dieu trinitaire. C'est l'homme appelé au salut. Et c'est l'homme, dès aujourd'hui, appelé à vivre cette nouvelle alliance avec Dieu et donc entre frères. Il y a cette vocation, pourrait-on dire, de l'humanité, une vocation personnelle et une vocation de chacun et de tout un ensemble. Il y a donc toujours cette vocation sociale et cette vocation surnaturelle de l'homme. C'est véritablement ce qui permet à l'Église, dans toutes ses prises de position, d'élever le débat au respect véritablement inviolable de la personne humaine. Cette inviolabilité qui est fondée dans une théologie de la création et dans une théologie de l'incarnation.
Cette vocation sociale de l'homme s'exprime notamment dans une dimension de partage.
Le jubilé chrétien se réfère au jubilé biblique. Il est en relation avec les exigences des biens communs et avec la destination universelle des biens de la terre.
Nous sommes gérants, nous sommes gestionnaires d'une création, et donc toute une théologie de cette destination universelle des biens va être concomitante d'un droit de propriété privé que l'Église justifie tout à fait, qu'elle fonde, mais en demandant qu'il ne se justifie que dans une perspective sociale, toujours dans une perspective sociale. Il y a donc une originalité très forte de la pensée de l'Église qui est de désirer que jamais on ne sacralise la propriété pour elle-même, qu'on ordonne toujours la propriété à l'ensemble de la communauté humaine et donc que l'on rappelle à quel point les biens, parce qu'ils sont constitutifs de toute une humanité, sont confiés à l'homme pour qu'il les répartisse au service d'un développement harmonieux et équitable. Inutile de dire que les conséquences en matière d'environnement sont énormes parce que respecter la nature, c'est aussi entrer dans ce thème de la destination universelle des biens. Et là, nous sommes dans une actualité criante.
Outre le partage et l'entraide, la doctrine sociale de l'Église prône aussi l'autonomie de la personne humaine.
La condition préalable à toute pratique réellement démocratique est le juste équilibre entre les forces vives de la nation selon les principes de la subsidiarité qui appelle une participation et responsabilité de chacun dans les décisions.
Alors là, nous touchons quelque chose de vraiment central et de très moderne. C'est véritablement de dire qu'il appartient au pouvoir public d'aider les individus et les corps intermédiaires à prendre des initiatives qu'ils sont capables de prendre. C'est cette idée de susciter la confiance. Si une structure inférieure est capable de prendre, d'assumer des choses, la structure qui lui est supérieure ne doit surtout pas l'en empêcher, mais doit au contraire profondément l'encourager. Ce qui est formidable dans le principe de subsidiarité, c'est que la structure supérieure, l'autorité supérieure, ne sera donc jamais en train de se substituer à, prendre la place d'eux, Et elle ne sera pas non plus en train d'abandonner la structure inférieure, la laisser complètement livrée à elle-même. C'est donc un principe de confiance véritable qui est plein de conséquences parce qu'on peut l'appliquer dans les administrations, on peut l'appliquer dans la vie économique, on peut l'appliquer dans les collectivités locales et aussi on peut l'appliquer dans notre Église. Parce qu'il faut offrir absolument à chacun la possibilité de contribuer de façon spécifique au bien commun dont nous parlions tout à l'heure et d'attendre des autres, des frères humains, leur propre contribution. Le principe de subsidiarité, quand on sait qu'il a été abondamment réfléchi par des fondateurs de l'Europe, c'est dire à quel point la doctrine sociale n'a vraiment pas à rougir de son actualité, de son acuité.
Pour exprimer le but de la doctrine sociale de l'Église, Jean-Paul II avait mis en lumière une expression, principalement dans le cadre de ses rencontres avec les jeunes, comme ici en 2000, lors des Journées mondiales de la jeunesse à Rome.
Sur la route de l'humanité, en demeurant unis dans l'Église du Christ, continuez de contempler la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, et vous serez éclairés pour bâtir la civilisation de l'amour, pour aider l'homme à voir le monde transfiguré par la sagesse et l'amour éternel.
La civilisation de l'amour, c'est véritablement un projet que Jean-Paul II avait admirablement synthétisé parce qu'il disait civilisation, donc il voulait bien dire que tous les paramètres d'une société, une société qui n'oublie pas d'être une culture, d'être fondée par une culture, mais aussi une société qui s'organise, c'est donc une civilisation, mais en même temps une civilisation de l'amour parce que l'appel du Christ à aimer, l'appel du Christ à nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés jusqu'au bout, cette civilisation de l'amour devient alors, pourrait-on dire, le centre même de tout ce qui vient éveiller la doctrine sociale. Dans la civilisation de l'amour, il y a vraiment un désir que l'action et la doctrine se relient pour le bien de tous.